Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va partager la parole de Dieu.
Et vraiment, ce matin, nous allons continuer ce que nous avions commencé. À propos de la vie d'Abraham. Et nous sommes en train d'étudier au travers de sa vie. Nous voulons découvrir les clés d'une destinée réussie. Nous avons étudié certaines clés. Nous avons vu que cet homme tient une place spéciale dans la parole de Dieu. Rappelez-vous que la destinée, c'est le but divin dans le cours de la vie d'une personne. Dieu a écrit notre avenir. Maintenant, nous avons une part à jouer pour que cet avenir puisse se dérouler sur la terre. Dieu a beaucoup de choses dans le ciel qu'il veut voir se réaliser sur la terre. Et rappelez-vous que ce n'est pas seulement par vos prières que les choses vont changer. Il va falloir que vous aussi vous vous positionnez d'une certaine façon, sans quoi vous ne pourrez pas réussir le plan que Dieu avait écrit d'avance pour vous. Et nous avons remarqué qu'Abraham était un homme de destinée. Et nous sommes tous des hommes et des femmes de destinée. À partir du moment où Dieu nous a sauvés, nous nous sommes positionnés pour que Dieu puisse nous amener dans notre destinée. Abraham, l'homme qui a reçu la plus grande promesse qu'aucun être humain a pu recevoir. Et nous avons commencé à étudier un certain nombre de clés qu'Abraham a utilisées pour pouvoir entrer dans sa destinée et réussir sa destinée. Le cours de notre destinée peut être accéléré, peut être freiné, peut être complètement stoppé. Tout va dépendre de la position dans laquelle nous nous mettons. Et cette position est très importante. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Il faut comprendre comment le royaume de Dieu fonctionne. Afin d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, les gens ne comprennent pas. J'ai découvert quelque chose d'important. Il nous faut de l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire la compréhension comment Dieu fonctionne. Lorsque tu es dans les choses, je dirais dans les lois ou comment Dieu fonctionne, alors ça se déroule devant toi. Lorsque tu ne comprends pas, tu peux faire tout ce que tu veux, tout est bloqué. Rien ne se passe, rien ne se produit. Et c'est pour ça qu'on a autant de chrétiens qui sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Et la parole de Dieu est riche en enseignements. Elle nous permet de comprendre comment Dieu fonctionne. Comment les choses de Dieu, les choses du royaume de Dieu fonctionnent. La première chose que nous avons vue, c'est avoir une vision. Nous avons vu entre autres Proverbe 29-18 qui dit que sans vision, le peuple meurt, le peuple est sans frein, le peuple ne sait pas où il va, il tourne en rond. Et c'est très important d'avoir une vision. Et tout de suite, Dieu a commencé à donner une vision à Abraham. Et je vous ai montré que cette destinée, la vision sur la destinée, c'est comme une adresse. Quand le courrier international part d'un continent, la première chose qu'on fait, c'est qu'on trie par continent d'abord. Si ça doit aller dans le continent américain, d'abord, on va mettre ça dans le gros paquet continent américain.
baravuga ati reka dushire
mu Si c'est en Asie, si c'est en Afrique, si c'est en Europe, n'importe où, on trie par continent.
Muri America dushire amakete yawe muri Asia muri Iburaya gucyo gucyo bagacagura
continent. Ensuite, une fois que ce gros sac est livré quelque part sur le continent. Alors on va trier par pays. Et après on triera par ville. Et après par rue. Et après on mettra dans la boîte du numéro de la maison. Et c'est comme ça que notre destinée se déroule devant nous. Dieu nous donne d'abord les grandes lignes. Ensuite, il nous demande quelque chose. L'obéissance. Et on a vu que l'obéissance, c'est accepter que quelqu'un de supérieur nous donne un ordre. C'est se soumettre. Se mettre dessous, volontairement. L'obéissance est un choix. Et l'obéissance, nous l'avons vu, implique de la souffrance. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. On a vu que c'est un trait de caractère. Ça s'apprend, ça se travaille en nous. Et la réelle obéissance, selon Dieu, c'est d'exécuter ses ordres en ayant une révélation de son amour, c'est-à-dire comprendre qu'il a le meilleur pour nous. On a vu que l'obéissance amène de la promotion et de la protection. On a vu que l'obéissance amène de la révélation. Vous ne pourrez jamais savoir plus sur le plan de Dieu si vous n'obéissez pas en premier lieu à ce qu'il vous a dit d'abord. Et ça, c'est un test. Lorsque tu commences à obéir, Dieu te révélera la suite. Si tu n'obéis pas, Dieu ne te révélera pas la suite du plan, les précisions. Sur, t'as le continent peut-être, mais il ne te donnera pas le pays. Entre guillemets, c'est l'image qu'on a prise. Et si tu ne continues pas à obéir, Dieu ne te révélera pas la ville. Ni la rue, ni le numéro. Exactement là où il veut te mener. Donc nous avons vu l'obéissance nous amène dans le terrain de la bénédiction. Quand on s'écarte de l'obéissance, on s'écarte de notre terrain. On a vu Abraham descendre en Égypte et il commence à avoir plein d'ennuis. La désobéissance ouvre les portes à l'ennemi. Et on a vu aussi que Abraham, vers la fin de sa vie, avait une telle révélation de Dieu, de l'amour de Dieu, que quand Dieu lui demande, offre-moi ta bénédiction, offre-moi la réalisation de ta promesse. Abraham n'hésite pas une seconde. Et c'est là où on voit qu'Abraham avait extrêmement grandi dans son obéissance. Donc nous pouvons grandir dans l'obéissance. La troisième clé qu'Abraham a utilisée, nous l'avons vu la dernière fois, c'était être un adorateur. Et nous avons vu que ça c'est très important. À chaque fois qu'Abraham était quelque part, eh bien, il mettait un autel, il brûlait un animal, il offrait un sacrifice. Tout de suite, il a fait ça. Nous l'avons vu. Ensuite, lorsqu'il se sépare d'avec Lot, alors qu'il est là, il n'a pas de révélation spéciale nouvelle de Dieu. À ce moment-là, il va se mettre près de Mamré, des chaînes de Mamré, vigueur et prospérité. Près d'Hébron, c'est Hébron, ça veut dire communion. Et nous avons vu que Dieu cherche des adorateurs. Dieu ne cherche pas notre adoration, il nous cherche nous en tant qu'adorateurs. Parce que l'adoration, c'est ce que produit l'adorateur. Et nous avions vu Amos 3:7 où Dieu révèle les choses dans l'intimité. Donc on a vu que l'adoration, c'est l'intimité avec Dieu, le développement de notre intimité avec Dieu. On a vu que l'adoration aussi amène la révélation. C'est-à-dire nous amène à voir clair dans les situations. Lorsque lorsque tu apprends la présence de Dieu et que tu te donnes à Dieu davantage, alors Dieu va te faire voir clair les situations. On a vu que l'adoration aussi amène la protection. Parce qu'il y a quelque chose de spécial qui vient sur nous. Nous avons vu certains personnages aussi qui ont réussi et d'autres qui ont échoué. Nous avons vu Saül. Saül avait certainement des qualités. Il avait aussi de gros défauts personnels. Mais par-dessus tout, ce n'était pas un adorateur. C'était un homme qui ne cherchait aucunement Dieu. Et sa vie a été un naufrage. David avait certainement beaucoup moins de dons au départ que Saül. Le départ de David a été extrêmement difficile pendant des dizaines d'années. Malgré l'appel qu'il avait
eu.
Mais David, malgré les fautes qu'il a faites, il était dit que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Et cet homme cherchait l'intimité avec Dieu. Et David a réussi sa vie, même s'il a fait de sacrées erreurs. Puis nous avons aussi pris l'exemple de Samson. Et Samson, nous voyons très bien que c'était un homme qui avait un appel. C'était un homme qui avait une onction. Mais c'était un homme qui ne cherchait pas Dieu. Étonnant d'ailleurs. Comment peut-on avoir un appel et une onction et ne pas vouloir chercher Dieu? Eh bien oui, il y a des gens comme ça qui ont des dons de Dieu et qui les utilisent mal. Samson a été un naufragé. Samson est mort prématurément. Il n'a pas accompli sa mission. Et pourtant, c'était un homme qui était loin. C'était un homme qui était appelé de Dieu. Donc, que vous ayez un appel pour faire telle ou telle chose, réjouissez-vous de cet appel. Mais sachez une chose, et je tiens à vous le répéter parce que ça, c'est quelque chose qui vous aidera énormément dans votre vie. Ce n'est pas parce que Dieu vous a parlé personnellement que ça va s'accomplir automatiquement. Les choses que Dieu vous a dites ne s'accompliront pas automatiquement. Votre cœur peut brûler d'un appel de Dieu. Sachez qu'elles ne s'accompliront pas automatiquement. Dieu a sa part, il fera toujours sa part. Mais nous avons notre part à jouer. C'est des clés qu'il faut savoir utiliser. La quatrième clé, bien évidemment, c'est la foi. Vous ne pourrez pas réussir votre destinée sans être quelqu'un qui apprenait à marcher dans la foi. Si vous ne savez pas marcher dans la foi, vous allez vous heurter à tout un tas d'obstacles. Abraham était un homme de foi et souvent on met l'accent sur Abraham, le père des croyants. La foi d'Abraham, et c'est vrai qu'il a eu une foi exceptionnelle. Même si aussi il a dû grandir dans la foi. Parce qu'Abraham va faire ses erreurs. Ce que j'essaye au travers de la vie d'Abraham et au travers des personnages bibliques, c'est de vous montrer qu'aucun de ces personnages n'était parfait. Mais certains ont réussi malgré leurs imperfections. D'autres ont échoué avec leurs imperfections. Donc, ce que je veux, c'est casser ce mythe. Vous savez, on a l'impression qu'il y a des gens, quand on lit l'histoire de la Bible, on voit ces personnages et on se dit, ah ben c'était simple. Comme ils ont reçu une vision. Comme Dieu leur a parlé. C'est bon, ça s'est accompli tout seul. Ça, c'est faux. Ça, c'est un mythe. Ça, c'est des choses qu'on pense qui sont complètement... C'est une mauvaise façon de penser. Nous devons travailler, œuvrer avec les lois du royaume de Dieu. Il y a des lois. Tu les pratiques, tu réussiras. Et tu glorifieras ton roi. Tu échoues, ukananirwa, ça veut dire que tu ne sais pas pratiquer les lois du royaume. Donc, il faut travailler sur nous-mêmes. Vous verrez que le fait de changer va amener l'influence du royaume de Dieu dans votre vie. Plus le royaume de Dieu est influent sur vous, plus le produit, c'est la bénédiction divine. Vous voyez, malheureusement, souvent les gens disent non, j'ai envie d'être béni, je veux toucher la bénédiction. C'est là où ils se trompent. Ne cherchez pas la bénédiction. Cherchez à vous mettre en position pour que Dieu puisse vous influencer davantage. Plus le royaume de Dieu vous influence, plus il y aura des fruits. Et ces fruits s'appellent la bénédiction. C'est simple, non? C'est très simple. C'est comme un arbre. Plus il y a de vie qui passe dans cet arbre, plus il va grandir, plus il a les conditions pour pousser rapidement, de la lumière, ce qu'il lui faut, oxygène ou je ne sais quoi, de l'eau, s'il a tout, il va bien grandir. S'il a pas, s'il lui manque quelque chose, il
ne
va pas bien grandir. C'est le même principe pour nous. Si nous nous positionnons pour que le royaume de Dieu nous influence davantage, nous portons les fruits du royaume. Ne cherchez pas la bénédiction. Ceux qui cherchent la bénédiction, ce sont les gens qui se trompent pas.
Ce sont
des gens qui amèneront de leur bénédiction. Ce sera un piège pour eux. Et malheureusement, souvent, quand on commence à prêcher la bénédiction, les gens se réjouissent. Parce qu'ils se disent, moi aussi, je veux. Je veux. Je veux. Non, ne fais pas ça. Cherche-le. Plonge tes regards dans la loi parfaite. Change ce que tu as changé. Grandis. Laisse le royaume t'influencer. Comprends la royauté divine. Comprends ta position dans le royaume de Dieu. Et plus tu feras ça, plus tu seras influencé par le royaume. Et le produit, ce sera la bénédiction.
Ce
n'est pas compliqué. Et l'avantage que tu auras à faire ça, c'est que tu vas grandir à la mesure de ta bénédiction. Ma mère avait une vigne en France. Et une vigne, on n'en a pas ici. On en a, je crois, en Tanzanie et en Afrique du Sud, entre autres. Et vous savez, la vigne que ma mère avait, c'était une très longue vigne. Elle était très vieille. Et elle faisait, je ne sais pas, au moins 10 mètres de long. Et donc, la vigne, c'est un espèce de petit tronc par terre. Et ça a de très très longues branches. Et souvent, nous, en tant que gamins, bon, on était là, et la saison des raisins, normalement, c'est vers septembre. Et cette vigne était, bon, elle était pas mal, mais elle n'était pas bien entretenue. Parce qu'on ne savait pas bien s'en occuper. Il y a juste mon frère qui s'en est occupé quelques années. Mais quand on la laissait faire ces choses toute seule, c'est grandir toute seule, lorsque le printemps arrivait, c'est-à-dire que tout repousse là en Europe, et aussi quand vous allez vers le sud de la terre, où il y a des saisons. Et en fait, quand vous laissez une vigne pousser toute seule, elle va avoir tendance à vouloir faire sortir plein de petites grappes, c'est-à-dire le début du fruit. C'est encore vert. Mais elle en fait sortir en abondance partout. Le problème, c'est que si vous ne vous en occupez pas, ces espèces de grappes, c'est-à-dire c'est des petites tiges où il y a plein de petites boules, et ça donne le raisin, et en fait, ça sort de partout. Le problème, c'est que si vous laissez ça comme ça, vous avez l'impression que vous aurez beaucoup de fruits. Mais, ce qui se passe, c'est que finalement, les grappes commencent à vouloir grossir. Mais elle cherche la vie.
Elle
cherche ce qu'on appelle la sève. Et en fait, elles ont du mal à trouver toute la sève qu'il leur faut. Et de toutes ces petites grappes que vous pensez plus tard que ça va devenir des fruits. Je me rappelle quand on arrivait en septembre, la plupart de ces grappes, elles étaient pourries. Elles n'arrivaient pas à maturité. Elles n'arrivaient pas à pousser correctement. Pourquoi ? Parce que normalement, il fallait couper une partie de ces petites grappes vertes au départ quand elles commençaient à pousser. Je ne sais plus si on en coupait 3 sur 5 ou 4 sur 5, on en enlevait plein. On enlevait la majorité de ces petites grappes qui commençaient à pousser parce que le reste de la vigne n'était pas capable de fournir la vie pour que tous les fruits arrivent à maturité. Et c'est la même chose avec nos vies. Si nous voulons du fruit, ce n'est pas en recherchant le fruit, en disant « fruit, pousse au nom de Jésus ». C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut grandir en même temps. Plus tu grandis, plus tu t'épanouis dans le royaume, plus tu porteras des fruits qui vont arriver à maturité. Et ça, c'est le principe de la vie avec Dieu. Malheureusement, les gens veulent le fruit, mais ils ne comprennent pas qu'ils doivent aussi faire grandir leur caractère. Parce que sinon, d'un seul coup, ils vont appliquer certains principes pour avoir la bénédiction. Et si cette bénédiction est trop forte, ils
ne
vont pas être capables de la contenir avec leur caractère. Et le fruit après sera pourri. Et c'est pour ça parfois qu'on voit des chrétiens qui d'un seul coup vivent une certaine bénédiction, mais comme leur caractère n'a pas été travaillé en même temps, ils n'ont pas grandi dans le Seigneur en même temps. D'un seul coup, pouf, vous les retrouvez par terre. La foi va être quelque chose d'indispensable dans laquelle nous devons grandir si nous voulons réussir notre destinée. Nous allons avoir un certain nombre de choses auxquelles on aura affaire dans notre vie pour remplir notre destinée. Et nous verrons qu'il y a quatre types de foi bibliques pour notre destinée. Le premier type de foi biblique, ça va être vraiment la foi pour démarrer dans notre destinée. Vous savez, quand on n'a pas l'habitude de marcher avec Dieu, on a un peu de mal à croire. Bon, c'est vrai qu'on reçoit la foi du salut parce qu'on entend le message du salut. Je ne parle pas de cette foi-là qui fait partie de ces fois de notre destinée. Mais la foi du salut, c'est simple. Je réalise que je suis pécheur. Je veux me repentir de mes péchés. Je me repens et je crois que Jésus est Dieu le Fils, qu'il est venu en chair, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Je lui demande de me pardonner, je crois qu'il me pardonne. Et je reçois le salut. Bon, ça c'est le type de foi où c'est la foi du salut. Mais cette foi du salut sécurise ton éternité. Mais ce qui ne veut pas dire que ta destinée sur la terre sera réussie. Nous avons beaucoup de chrétiens qui échouent dans le plan divin, leur destinée donc sur cette terre. Pourtant, ils vont au ciel. Ils ont reçu Jésus. Jésus nous sauve. Mais ce n'est pas cette foi du salut qui va te permettre de rentrer dans le plan divin. Ça, c'est pas possible. Ça marche pas comme ça. Il va falloir que tu travailles dans ta vie personnelle de foi. Et souvent, il y a un moment où il y a quelque chose qui va se déclencher. Tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu reçois le Seigneur. Et comme je vous le disais précédemment, quand on a parlé de la vision, le Seigneur va te parler et tu vas savoir à quoi tu es destiné dans les grandes lignes, dans le continent, entre guillemets. Donc Dieu va te parler et il y a un moment où il va te dire de faire quelque chose. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12. Il lui a dit, sors de ta patrie, va-t'en de ta patrie, au verset 1, on l'a lu je ne sais combien de fois, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai, je ferai de toi, etc.
etc.
Quand nous lisons Hébreux 11, verset 8, la Bible nous montre que Abraham a posé un acte de foi ici.
Hébreux 11, verset 8,
il est dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Ngo ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye akaja ahantu yarabikiwe kuragwa nuko aragenda atazi yaja.
Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire au début.
Muntango vyukuri niko kitoroshe gukora.
Et quand nous voulons marcher dans notre destinée,
il
faut dire une chose. Abraham ne savait pas où il allait là. Mais toi, quand le Seigneur te parle, et qu'il commence à te dire, maintenant, il faut que tu obéisses, il faut que tu fasses ça, il faut que tu ailles ici. Tu ne sais pas non plus vraiment où tu vas. Je veux dire dans le sens où Dieu ne t'a pas révélé tout son plan. Parce que la plupart du temps, si Dieu nous révélait tout son plan, nous dirions, Seigneur, ok, Seigneur, ça va. Ça, c'est super, Seigneur, mais avec tout le reste que tu m'as annoncé, Et ça, c'est sûr. Souvent Dieu va nous dire de faire quelque chose et nous n'imaginons même pas toutes les conséquences qu'il va y avoir, les excellentes conséquences, mais aussi toutes les pressions que nous allons subir, tous les moments difficiles que nous subirons. Donc on a besoin de cette foi vraiment pour démarrer. Et souvent quand nous marchons dans la foi, il y a pas mal de gens qui nous qualifient d'un peu fous quelque part. Et c'est sûr que si Dieu nous disait tout, nous refuserions de partir la plupart du temps. Alors vous pouvez avoir un cœur obéissant, mais la foi vous permettra de mettre en action cette obéissance. Vous pouvez avoir un désir d'obéir à Dieu, mais si vous avez peur, vous serez paralysé et vous passerez à côté de l'étape de Dieu. Quand vous voulez obéir, il vous faut un élément de foi. Et cette foi pour démarrer, c'est une foi qui est indispensable.
Et
souvent, elle est pas évidente. Cette foi va nous donner vraiment l'énergie de dire, ok, j'ai décidé d'obéir, j'obéis jusqu'au bout. En fait, cette foi pour démarrer, c'est cette foi qui va nous permettre de nous mettre sur les rails de notre destinée. T'as été sauvé, tu commences à marcher avec le Seigneur, il commence à te révéler son plan, tu veux obéir, tu commences à travailler ta relation avec lui, et d'un seul coup Dieu dit, maintenant voilà ce qu'il faut que tu fasses. Ok, Seigneur, je veux obéir. Et là, tu vas être obligé de faire un pas de foi. La Bible nous le dit ici. Abraham est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est parti. Il ne savait pas, mais il a obéi à la parole de Dieu et il a agi sur cette obéissance, sur cette parole qu'il a reçue. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais louper dans notre vie. Souvent, Dieu est obligé de nous attendre pendant très longtemps avant de nous dire, voilà, maintenant, faut que tu ailles. Abraham avait 75 ans quand il est sorti. Il avait 75 ans. Pendant 75 ans, on ne sait pas trop comment Abraham vivait. Il a vécu 100 ans dans sa destinée. Et il a vécu 75 ans, certainement, plus ou moins en tournant en rond. Peut-être qu'il a commencé à découvrir qui était le vrai Dieu. Mais la Bible reste muette sur ces premiers 75 ans de la vie d'Abraham. La seule chose qu'on sait sur lui, c'est que ses parents étaient des adorateurs d'idoles. C'est tout ce qu'on sait. Maintenant, le deuxième type de foi dont vous aurez besoin pour votre destinée, c'est la foi contre les circonstances. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont essayer de nous écarter de notre destinée. Il y a énormément de circonstances, de tentations, de découragements qui vont croiser notre route. Et là, tu dois faire extrêmement attention. Tu vas avoir besoin d'une foi qui te permet de rester sur la piste. C'est bien d'être sur la piste. Tu commences à marcher dans ta destinée. Mais surtout, il ne faut pas que tu t'arrêtes ou que tu sortes de la route. Et ça, c'est une tentation auquel tout le monde, je dirais, est convié. C'est-à-dire, tu as les promesses de Dieu, tu as commencé à marcher dans la foi. Et là, tu vas rencontrer un certain nombre d'obstacles. Vous savez, on est tous sous l'excitation quand Dieu nous parle. Mais je vais vous dire une chose. Pour votre destinée, Dieu pourra vous parler à certains moments. Mais les périodes où il ne va rien vous dire de nouveau vont être des périodes longues. Et le chrétien n'aime pas ça. Le chrétien veut toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Non, Seigneur, t'as donné une direction, tu obéis. Oui, mais Seigneur, parle-moi, parce qu'en ce moment, ça ne va pas du tout. Je ne comprends plus. Tout autour de moi est en train de s'écrouler. Là, tu vas avoir besoin de foi. Là, tu vas être dans l'école de la foi. Mais l'avantage que tu as, c'est que tu es au centre de la volonté de Dieu. Donc c'est là où tu vas rencontrer les pires oppositions de ta vie. Par contre, c'est là où tu verras les plus grandes victoires qui vont commencer à créer ce caractère de foi en toi. Te permettre d'avancer dans la foi, te permettre de comprendre comment les choses de Dieu, lui qui est invisible, peut rendre sa bénédiction visible dans ta vie. Mais là, tu es seul à seul avec lui. Parce que quand tu as commencé à obéir dans la foi, tu as perdu tes sécurités. Tu as perdu ta zone de confort. Et un jour, les disciples se sont retrouvés comme ça dans un bateau. Regardons ensemble dans Marc 4. C'est tout à fait ce que je veux illustrer ici. Ce même jour, verset 35, Marc 4, 35. Sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, tu ne te soucies pas que nous périssons. »
ngo kuri uwo munsi bugorovye 35 arababwira ati tujabuke tuje hakujya basiga abantu hano bamujana mu bwato yahozemmo kandi ayandi mato yari kumwe nabo nuko hazi nkubi ikomeye y'umuyaga imipfunda yisuka mu bwato bwari ko buruzura ariko we yarajyamye mu mutwe w'inyuma yiseguye umusego yisinziririye baramukangura baramubaza bati mwigisha ntubabaye ko turiko turapfa.
Ça c'est typique du chrétien.
Ibi rero cyerekana mu Kristo.
T'as obéi parce que Dieu t'a parlé. Et pour l'instant, Dieu ne te dit plus rien. Là, Jésus leur avait dit monter dans la barque et il était monté aussi. D'un seul coup, les circonstances sont terribles. Et la seule chose qu'il trouve à dire au Seigneur, Seigneur, toi, tu roupilles là. T'es fatigué? Mais tu vois pas qu'on est en train de mourir. Ils sont en train de faire quoi? En train de tout remettre en question. Ne commence pas à tout remettre en question constamment. Ça, c'est un luxe que tu ne peux pas te permettre de t'offrir. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Toujours, qui remettent en question ce que Dieu leur a dit. Qui remettent en question, je ne sais plus, là ça ne va plus, Seigneur. T'es sûr que tu me voulais bien là? Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui m'as parlé là? Alors qu'ils étaient en train de chanter partout, le Seigneur m'a parlé, j'obéis, je vais mes valises, je vais là, je fais ceci, je fais cela. Et puis quand il y a des pressions, ils sont là et disent, Jésus, tu vois pas, écoute ce qui m'arrive. Si tu fais ça, c'est-à-dire que ton caractère de foi a besoin d'être travaillé. Tu verras l'opposition, tu auras les tentations de dire j'arrête tout.
C'est fini.
J'en peux plus. Ne dis jamais j'en peux plus.
Il ne
faut jamais dire ça. Il y a des choses dans notre vocabulaire qu'il faut enterrer pour l'éternité. Amen. Et vous avez intérêt à faire ça. Si vous voulez vraiment avancer,
il faut
construire ce caractère de foi.
En fait.
Stimuler votre foi. Plus tu commences à dire, Seigneur, rien ne va. Seigneur, c'est difficile. Seigneur, Seigneur. Plus tu es dans cette mentalité du désert. Une mauvaise nouvelle pour toi. Plus tu resteras dans ton désert. Moins tu verras Dieu. Non, dans cette période où tu as obéi au Seigneur, c'est là où tu dois travailler ta foi. Tu dois grandir dans ta foi. Tu es à l'école de la foi. Tout est contre toi. Est-ce que le Jésus qui n'avait pas fait des miracles quelques chapitres avant, où les gens le touchaient et étaient guéris, ce qu'ils avaient vu avec leurs propres yeux, ce même Jésus qui était dans le bateau, qui les avait amenés jusque là, d'un seul coup, il leur dit, bah finalement Seigneur, on est en train de périr. C'est fini. On est foutu. Et toi, tu t'en fous. T'es là en train de dormir. C'est exactement ce qu'ils étaient en train de dire. Et alors, juste avant, c'était les miracles, les guérisons, les grandes foules. Ah, on connaît Jésus, nous. Les gars, on va vous dire comment ça se passe quand on est auprès de Jésus. Puis trois jours plus tard.
Mais
comment on peut être charnel? Ça, c'est ne pas comprendre. Ça, c'est être immature dans la foi. C'est facile de se réjouir, de dire, ah, Dieu, tu es merveilleux quand tout va bien. Mais avant de voir ces choses réellement établies dans ta vie, il va falloir que tu passes par l'école de la foi. Dans ta vie propre. De résister au découragement. D'être là jour après jour alors que rien ne semble bouger. Profite de ces moments. C'est dans les moments de calme, dans les moments où rien ne semble bouger, apprends à te renforcer spirituellement. Parce que quand tu vas être au milieu des difficultés, quand le découragement va essayer de venir vers toi, tu pourras stopper ces choses et dire non, je les refuse dans le nom de Jésus. Non, je veux grandir dans la foi. Non, je refuse cela. Et là, tu commences à te fortifier sur ta route. La route ne manque pas d'obstacles. Il y a des obstacles sur la route. Tout le monde en rencontre. Mais il y en a qui savent les utiliser. Il y en a qui refusent le découragement. Il y en a qui refusent la tentation. Il y en a qui refusent l'impatience. Et qui continuent à s'opposer à leurs mauvaises circonstances. Quand tu es sur la route de ta destinée, tu verras que rien pour l'instant sera produit. Dieu t'a parlé, il t'a dit d'obéir, mais tu ne vois rien. C'est Abraham qui est là, dans ses tentes. Il va dans un endroit, il plante ses tentes. Il adore Dieu. Il
n'y
a rien qui se passe. Il va dans un autre endroit, il plante ses tentes. Il adore Dieu et il n'y a rien qui se passe. Des années comme ça. Je vous dis une chose. Dieu ne vous parlera pas toutes les 5 minutes à propos de votre destinée. Non, continue à faire ce que tu es en train de faire. Et toi, tu t'opposes à tes circonstances. Tu commences à marcher dans la foi. Tu commences à connaître les principes de la foi. Pour t'opposer à tes circonstances. Ce type de foi s'appelle la foi horizontale.
Où
tu parles à tes montagnes, à tes circonstances,
à
tes problèmes.
Et
tu leur dis, non, ce n'est pas ça qui va prédominer.
Ce n'est
pas ça qui va prédominer.
Je
proclame la parole de Dieu.
Je
me fortifie dans la foi.
Je
déclare ces choses. Cette adversité est là. Peu importe qu'elle soit là, je marche dans mon obéissance. Personne ne me dévissera de mon obéissance.
Personne
ne me fera changer de direction.
Je
continue, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, que tout semble bien aller comme tout semble mal aller, peu importe, je continue. Donc tu as besoin de ce deuxième type de foi pour rester sur cette piste. Le troisième type de foi dont tu as besoin, c'est ce type de foi où tu vas recevoir la promesse. Donc là, c'est cette foi envers Dieu. Cette foi envers Dieu. Et là, c'est ce qu'on appelle la foi verticale. Dans Romains chapitre 4, il nous est parlé d'Abraham et sa foi pour recevoir sa promesse. Romains chapitre 4. C'est là où Abraham va croire Dieu. Et c'est là où tu dois apprendre aussi à te confier dans le Seigneur. Par rapport à ce qu'il t'a dit.
Vous
voyez, tout au début, il y a quelque chose qui nous met sur les rails de notre destinée. Ce moment où Dieu nous dit, maintenant, vas-y, pouf. Fais cela. Tu as la foi, tu obéis et tu te retrouves sur les rails de ta destinée. Ensuite tu commences à avancer et là il y a toutes sortes de choses qui se passent, de l'opposition, des difficultés, toutes sortes de choses qui te dérangent, toutes sortes de choses. Mais pour l'instant tu dois apprendre à exercer ta foi horizontalement. Dieu n'a rien à voir avec ces mauvaises circonstances. Ce n'est pas lui qui va les changer directement. C'est toi par ta foi qui va les changer. En pratiquant sa parole par rapport à tes circonstances. En refusant de gémir. Maintenant, le troisième type de foi, ça va être vis-à-vis de Dieu. Romains 4. Il est dit, en effet, verset 13, ce n'est point par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa descendance, c'est par la justice de la foi. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Verset 16. Donc, c'est par la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous, devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Regardez bien le verset 18, c'est à partir de là qu'on va lire en Kirundi. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps, qui était presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort, mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu, étant pleinement convaincu que ce qu'il a promis, il a aussi la puissance de le réaliser. C'est pourquoi cela lui fut compté à justice. À partir du verset 18, s'il vous plaît.
Ngwabe sekuruza w'amahanga menshi nkuko byavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana kandi ntiyagabanuka kukwizera yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe na Sara yari yaraciye ariko yiyumvire icimana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa cyane no kwizera ahesha Imana icubahiro.
Et ça, c'est la foi envers Dieu. Il t'a promis. Et tu continues à le glorifier. Donc là, on ne parle pas de la foi contre les circonstances. De la foi contre la tentation. De la foi contre le découragement. Tout ça, c'est des choses qui s'opposent à nous. Ce sont pas des circonstances de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ces circonstances-là. Ce sont toutes les choses qui s'opposent à nous pour notre marche spirituelle. Mais si tu agis uniquement dans cela, bon, tu verras des circonstances changer. Par contre, ce que Dieu t'a dit personnellement ne se réalisera pas. C'est c'est là où tu devras croire Dieu. C'est là où tu devras utiliser ce troisième type de foi pour ta destinée. C'est cette foi envers Dieu. Et tu es là. Qu'est-ce que faisait Abraham? Il donnait gloire à Dieu. Il donnait gloire à Dieu. Il donnait gloire à Dieu pour sa promesse. Il croyait que sa promesse était là. Devant ses yeux réalisés. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Il y a des choses que tu dois dire au Seigneur. La foi horizontale, tu dis les choses aux circonstances. C'est ce que Jésus a enseigné. Si quelqu'un dit à cette montagne, etc. etc. Maintenant, le troisième type de foi, c'est vraiment entre toi et Dieu. C'est ta marche avec lui. C'est ton intimité avec lui. C'est quand tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as promis ça. Ou des fois, tu lui rappelles ses promesses. Tu dis Seigneur, tu m'as promis ça. Seigneur, je veux entrer maintenant. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu as cette toute puissance. Je dépends de toi. Ça vient vraiment de toi. Ça. C'est quelque chose que tu vas déverser sur moi. Abraham a dû croire. Et Dieu a fait le miracle en
Sarah.
Donc c'est pas compliqué. C'est une question de foi verticale. Tu es là, tu crois. Tu crois
et
tu dis Seigneur merci. Merci Jésus.
Merci
parce que je crois que tu l'as fait. Je crois que ça va pleinement se manifester dans ma vie.
Oh
merci parce que tu es bon Seigneur. Entre temps tu te seras battu contre toutes tes circonstances. Tu auras grandi dans ta foi au niveau horizontal. Mais là tu as besoin de renforcer ton intimité avec Dieu au niveau de la foi. Et tu le remercies, tu le loues. Et au bout d'un moment, il descend. Et quand il descend, tout s'accomplit devant toi. T'as pas besoin de forcer.
Vous
savez, il y a des gens qui cherchent à forcer les promesses de Dieu, ils ont tort. On ne cherche pas à forcer les promesses de Dieu. Ne cherchez jamais à forcer les promesses de Dieu. Mais reçois-les simplement. Mets-toi en position pour que Dieu puisse descendre avec sa puissance. Souvent, malheureusement, on ne comprend pas ce principe. Quatrième type de foi dont tu auras besoin si tu veux aller très loin dans ta destinée, c'est vraiment la foi dans la puissance infinie de Dieu. Et là, c'est une dimension de foi quand tu as énormément avancé dans ta destinée, où tu comprends réellement les principes du royaume de Dieu, et
tu
es dans une telle dimension d'influence que tu sens encore qu'il y a un niveau beaucoup plus supérieur. Qui d'un seul coup peut t'amener dans un, je dirais, dans l'infinie puissance de Dieu. T'amener dans une percée spirituelle ultra rapide. Ou d'un seul coup, tu ne vois pas la bénédiction de Dieu, mais tu vois sa super puissance dans tous les sens.
Vous
savez, il y a des temps où on peut ramener les bénédictions de Dieu dans nos mains.
Mais
dans la vie d'un homme, il peut se passer quelque chose de super exceptionnel. C'est qu'il en est tellement qu'il n'a plus du tout les bras pour contenir la bénédiction. Souvent, les gens voudraient arriver à cela sans passer par les autres étapes. Et c'est là où ils se trompent. La croissance dans les autres étapes dans le domaine de la foi sont indispensables avant de pouvoir entrer dans des dimensions supérieures.
Et
malheureusement, si on enseigne aux gens une foi ultra dynamique, où d'un seul coup il peut se passer énormément de choses, là on parle de multiplication extrême. Les gens ne comprennent pas qu'ils doivent d'abord passer par les autres étapes de foi. Et ça c'est un problème que beaucoup ont d'ailleurs. Parce qu'on peut faire sauter les gens en l'air en leur montrant des exemples bibliques. Donc on leur montre les grands résultats. Mais il faut aussi montrer comment arriver d'abord aux résultats. Toutes les étapes par lesquelles on doit passer. Parce que souvent c'est ce qu'on oublie de dire aux gens. Donc les gens sautent en l'air avec une belle prédication. Ils pensent que tout va se passer comme ça à la seconde
prêche.
Et après, ils sont déçus. Alors, une fois, ils sont déçus. Deux fois, ils sont déçus. Dix fois, ils sont déçus. Et après, quand ils entendent de belles prédications, prédication, on veut les amener, on leur montre des grandes dimensions, et bien ils disent, oui, c'est bien, oui. Oui, on peut encore crier, mais il ne se passera rien. Et c'est ça qui ne va pas. Non, il y a un chemin. Je ne veux pas vous raconter des histoires. Je
ne
veux pas aller vous raconter les petits trucs qui va d'un seul coup vous propulser de 0 jusqu'à 10 000. Il y a des étapes. Abraham, vers la fin de sa vie, nous l'avons vu, il va avoir un caractère d'obéissance. Et au travers de ce caractère d'obéissance, on voit l'immensité de sa foi. Quand il va offrir sa bénédiction, ça veut dire qu'il avait énormément grandi dans son caractère. Il est capable de donner ce que Dieu lui a donné, ce qu'il avait attendu plus de 25 ans. Mais la Bible nous parle d'une action de foi ici, au travers de son obéissance encore. La vraie obéissance avec Dieu fonctionne avec la foi. Dans Hébreux 11, verset 17, il nous est dit, c'est par la foi qu'Abraham mis à l'épreuve à offrir Isaac, c'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Il comptait, regardez bien au verset 19, que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts.
Baravuga ku murongo wa 17 ngo kwizera niko kwatumye Abraham atanga Isaka kwikimazi hamwe yagezwa mbere wari yarakiranye gishika amasezerano yari ko aratanga kwikimazi umwana wiwe w'ikinege uwo yari yarabariwe ivyiwe ngo kuri Isaka niho urubyaro rwawe ruzokwitirirwa.
Pourquoi est-ce qu'Abraham a une telle obéissance?
Kubera iki Abraham yagize kwizera nkuko no kumvira
nkuko? Parce qu'il était dans une dimension de foi extraordinaire.
Yumviye kubera ko yari mu rugezo rwo kwizera kutagira uko kungana.
Vous savez, c'est bien de dire une chose à Dieu. Oh Seigneur, tout dans ma vie est à toi. Est-ce que tu as déjà entendu prier cette prière? Fais attention. Parce que ça, c'est plus qu'une prière. C'est une vraie dimension de foi. Une vraie dimension de foi. C'est différent. Vous savez, des fois, on fait, je ne dirais pas des fois, je dirais trop souvent, on fait des prières qui dépassent très largement notre niveau spirituel. Amen. Faisons attention à ça. Là, Abraham, on lui a arraché son cœur. Vous êtes d'accord? Vous imaginez croire et recevoir au bout de 25 ans et que Dieu un jour fasse Steve,
mais les
l'état tout.
Donne-moi Vios.
Si on obéit tel quel, sans discuter, ça prouve que là on est dans une certaine dimension. Abraham était dans une telle dimension. La Bible nous dit. Il savait de toute façon, même si son fils allait mourir là, Dieu avait la puissance de le ressusciter. Ça, c'est une dimension, frères et sœurs. Une dimension de foi, un développement de foi énorme. Donc, c'est bien de dire, oui, Seigneur, demande-moi tout, je te donnerai tout. Comme Jésus a dit dans Jean 17, tout est à toi, Père, et tout ce que tu as est à moi. Oui, ça, tu aimes bien dire, Seigneur, tout ce que tu as, c'est à moi. Mais dans cette dimension de foi, c'est tout ce que je suis, tout ce que j'ai, Seigneur. Tout. En anglais, on appelle ça to be sold out, c'est-à-dire être complètement, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français, mais être complètement donné au Seigneur. C'est difficile à traduire. C'est-à-dire que tout est Dieu pour toi. Tout est à Dieu. Tout ce qu'il demande, tu es capable de le faire. Sans discuter. Parce que tu es dans une telle dimension que tu connais tellement sa puissance. Tu as une telle révélation de lui. Que je veux dire pour toi, c'est quelque chose qui est entre guillemets naturel. Ça, c'est un type de foi. Qui est un super turbo accélérateur de destinée. Qui te propulse comme une fusée. Quand Abraham a fait ça, Dieu
Dieu a dit, maintenant je sais.
Et
il lui a donné les promesses. Là, c'était, il était, Abraham, il était complètement comblé. Il pouvait plus, avec ses bras, il pouvait plus contenir la bénédiction de Dieu. Tout était accompli pour lui. On va se lever, on va prier ensemble. Alléluia.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.